enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Parole de Dieu, une encre pour votre foi. Je crois que plus que jamais, il nous faut remettre la parole de Dieu au centre de nos vies. Je me rends compte à combien plus nous avançons, plus la parole de Dieu est remise en question, relativisée. Le diable jette vraiment tous ses efforts pour la discréditer. La parole de Dieu est un enjeu extrêmement important. Et je dirais que Satan met toutes les stratégies en œuvre pour pouvoir semer le doute quant à la parole de Dieu, pouvoir dissuader nos contemporains de croire à la parole de Dieu, mais plus encore, amener les croyants à relativiser la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus dira dans Jean chapitre 14, les versets 23 à 26, et nous le lisons ensemble, Jean 14, versets 23 à 26, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que Jésus a dit, et le Saint-Esprit vient nous rappeler premièrement la parole. La parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vous mènera jamais ailleurs que dans la parole. Ce matin, j'aimerais voir avec vous pourquoi Satan cherche-t-il tellement à discréditer la parole de Dieu. Pourquoi cherche-t-il à la remettre en question, à la déformer, à la banaliser? Pourquoi cherche-t-il à semer le doute quant à la parole de Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Il sème le doute quant à la parole de Dieu parce que lui n'a aucun doute au sujet de la parole de Dieu. Il sème le doute parce que lui n'a aucun doute. Il sait quelle est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il la combat avec autant de férocité, d'énergie. C'est pour cela qu'il va prendre les chemins les plus sinueux pour éloigner les hommes, les femmes qui sont nos contemporains, loin de la parole de Dieu, mais plus encore, pour induire les croyants en erreur. Frères, sœurs, je crois que nous sommes entrés ou nous entrons dans le 21e siècle, et plus que jamais, les croyants sont en danger quant à la parole de Dieu. Toutes sortes de doctrines commencent à déferler sur notre pays. On utilise la parole de Dieu chacun à sa manière, et bientôt on va en finir comme dans les juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon en Israël. C'est le désordre, c'est le chaos. Le Satan sait cela, et c'est pourquoi il s'acharne. Il sait ce que la parole produit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu entends la parole de Christ. Elle produit la foi, mais attention, lorsque Jésus dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ce n'est pas les oreilles qui entendent, mais c'est le cœur qui entend. Excusez-moi, c'est l'apôtre Paul. C'est le cœur qui entend. Lorsque Paul dit cela, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend avec le cœur. Et ce qu'on entend avec le cœur vient de la parole de Christ. Ça veut dire, en d'autres mots, que vous pouvez ce matin avoir des oreilles et ne rien entendre. D'ailleurs, Jésus dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Contrôlez votre voisin s'il a des oreilles. Oui, vous pouvez mettre le doigt pour voir. Après, vous le nettoyez. Vous savez, chez mes frères africains, là-bas, ils sont vraiment uniques. Ils sont uniques, ils sont très nature. J'aime être avec eux. Un coup, je me promène, j'avais quelque chose dans l'oreille. Tout d'un coup, je sens un doigt dedans. C'est un frère, il me nettoyait l'oreille. Je trouvais ça tellement sympathique. quand on avait le groupe de jeunes là-bas, on avait un de nos petits frères qui avait un bouton dans la nuque. Tout d'un coup, il sent quelqu'un qui lui presse le bouton. On s'entretient mutuellement. Alors veillez s'il a des oreilles. Le fait d'avoir des oreilles n'assure pas que vous allez entendre ce matin. Vous pouvez avoir des oreilles et être sourd dans le cœur. Vous pouvez avoir des oreilles, entendre et comprendre intellectuellement, mais être sourd dans votre cœur. Bien aimé, le diable sait qu'en combattant la parole, il va empêcher la foi de grandir en vous. En la mettant en doute, il va vous amener à ne pas recevoir ce que vous demandez. Il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui doute ne peut rien obtenir, dira Jacques. Et le diable sait très bien qu'en jetant le discrédit sur la parole, il empêche les non-croyants de se tourner vers Dieu. La parole est une arme. Frère, sœur, la parole est une arme, c'est une épée. En es-tu conscient? Alors quand les gens te disent, je ne crois pas la parole, je ne crois pas la parole, que fais-tu? Remets-tu la parole de Dieu en question? Ce n'est pas la solution. Si quelqu'un me dit personnellement, je ne crois pas ce que vous dites, je ne crois pas la parole, vous savez ce que je fais? Je continue à annoncer et à proclamer la parole. C'est comme si vous aviez un duel avec quelqu'un à l'épée, ça fait longtemps que ça ne se fait plus, hein. Imaginez que celui qui est en face de vous vous dise, tu peux longtemps venir avec ton épée, moi je ne crois pas qu'elle peut faire mal, je ne crois pas qu'elle coupe, et je remets en question le métal. Est-ce que vous vous arrêtez en disant, oh c'est vrai, tiens, il faudrait peut-être que j'analyse mon épée. Est-ce que vous vous arrêtez? Est-ce que vous attendez que l'autre vous trucide? Vous reprenez votre épée, vous ne la remettez pas en question, tu dis ce que tu veux, mais moi, je te hachiche. Vous ne vous arrêtez pas dans le combat. Frère, sœur, lorsque la parole de Dieu est remise en question, ne vous arrêtez pas. Proclamez la parole, elle est comme un marteau qui brise le roc. Mais ce n'est pas là l'essentiel de ce que je veux dire ce matin. Il sait qu'en relativisant la parole de Dieu, il sait qu'en empêchant qu'elle pénètre dans ton cœur et dans mon cœur, eh bien, il favorise le péché dans ta vie. Le psalmiste David dira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je suis surpris de la légèreté au milieu du peuple de Dieu. Et je suis surpris de la facilité avec laquelle des hommes et des femmes tombent dans les péchés les plus énormes. Et je me dis, il y a un manquement au niveau de la parole. Elle n'est pas suffisamment serrée dans les cœurs. On l'entend, mais elle ne pénètre pas le cœur. Frère, je suis étonné de voir le nombre d'hommes qui chutent, qui tombent dans l'adultère et dans bien d'autres péchés. Très facilement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas serrée dans le cœur. Alors oui, je bénis le Seigneur pour la grâce. Je bénis le Seigneur pour la compassion. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui nous dit également, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais le but, c'est pas que nous soyons constamment pardonnés. Le but, c'est que nous ne péchions plus. Et pour cela, la parole doit être serrée dans les cœurs. Alors, quelles sont les différentes stratégies utilisées par Satan? Je vais prendre les plus connues, celles que finalement il emploie pour dissuader le monde qui nous entoure. L'une des armes qu'il utilise, c'est l'arme scientifique. C'est de mille et une manières que des scientifiques, et je ne dis pas tous les scientifiques, Dieu soit béni, mais une certaine branche de scientifiques cherche à démontrer que finalement, ce qu'on dit être la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu, et ils vont s'efforcer à donner le plus de preuves possibles. Par exemple, pendant très longtemps, on a affirmé que finalement les écrits d'Ésaïe n'était en rien prophétique et n'était en rien une révélation de Dieu. Les écrits d'Ésaïe étaient finalement précis, tout simplement, ça s'explique, parce que Ésaïe a écrit après Jésus-Christ. Ce qui explique qu'il soit précis dans ce qu'il disait. Il a écrit après Jésus-Christ. Alors évidemment, si vous partez du principe que Ésaïe a écrit après Jésus-Christ, vous remettez en doute le prophète Ésaïe. Vous remettez également en doute les prophéties au niveau de Jésus. Et ça remet en doute la personne de Jésus elle-même. Mais béni soit Dieu, en 1947, un petit berger bédouin qui cherchait une chèvre en inspectant une caverne et en jetant une pierre, va se rendre compte que ça résonne drôlement. Il rentre dans la caverne et là, il découvre des jarres. Et dans les jarres se trouvaient des rouleaux de cuir. Et sur ce rouleau de cuir, on a retrouvé les textes du prophète Ésaïe qui ont été formellement identifiés comme ayant été écrits au moins 200 ans avant Jésus-Christ. Toute la théorie s'est effondrée. Et il y a là différents textes qui vont de 200 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 60 de notre ère. Frères et sœurs, Dieu sait se justifier lui-même. Mais vous avez d'autres exemples. Vous savez que souvent on dit, mais la Bible finalement n'est qu'un livre rempli de fables. Ce ne sont que des récits qui viennent de différents endroits que l'on a rassemblés dans un livre que l'on a appelé le livre de Dieu. Mais ce n'est pas cela. Il y a eu une découverte relativement récente, puisqu'elle est de 96. Je vous lis un extrait. C'était dans le Figaro magazine. Voilà ce qu'il est dit. Et si les évangiles étaient un reportage subversif, un papyrologue bouscule les idées modernes sur les origines chrétiennes. Les évangiles auraient été écrits beaucoup plus tôt que nous le croyons et par des témoins de la vie du Christ. Si le professeur Tied a raison, certains récents best-sellers ne seront pas réimprimés. Écoutez maintenant. Sur ce papyrus, on voit quelques lignes en grec. Elles font partie de toute évidence du chapitre 26 de l'évangile selon saint Matthieu. Au verso, c'est le passage de l'onction de Béthanie. Au recto, l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Mais quel âge a ce papyrus? Alors un papyrologue a affirmé qu'il date de la fin du 2e siècle, c'est-à-dire 200 ans après Jésus-Christ. L'avis de Robert va dans le sens du courant intellectuel qui va dominer les milieux chrétiens entre 1960 et 1990, et selon lequel on ne peut rien savoir du Christ historique. Les évangiles, affirme-t-on, dans ces milieux sont à prendre comme des symboles, non comme un témoignage. Ils ont été composés, assurent ces exégètes, loin du milieu juif de Palestine, dans les grandes cités cosmopolites de l'Empire romain, par des idéologues plus ou moins platoniciens. On a cru tout cela jusqu'à hier. Et je continue. Sur le fragment du haut, on lit en grec « Is » pour « Jésus ». Sur le fragment de gauche, on lit « Galiglaïen » pour « Galilée »,« Petros » pour « Pierre » et « Ké » pour « Curie »,« Seigneur ». Mais voici la bombe scientifique, ces écrits en grec sur des feuilles de papyrus formant un codex, qui est l'ancêtre du livre, ne serait pas tardif, il daterait de l'an 50 de notre ère. Ce seraient donc les plus anciens évangiles connus. Ils semblent avoir été rédigés une vingtaine d'années après le Christ. Cette ancienneté tend à prouver, contrairement à ce qu'affirment encore des livres de vulgarisation récents, que les quatre évangiles n'ont pas été rédigés tard, loin de Palestine et par des convertis pleins d'imagination, mais très tôt après le Christ et par ses propres contemporains. Juifs, ceux-ci écrivaient pour d'autres juifs capables de vérifier les données du récit parce qu'ils avaient côtoyé Jésus. Ce public de lecteurs rigoureux n'aurait pas toléré le moindre gauchissement des faits, ni la moindre affabulation. Les évangiles ne semblent donc pas être un recueil de légendes inventées longtemps après coup. Leur nature et leur contexte en font plutôt un témoignage à chaud. La découverte du professeur Tied est une double révolution pour la science et pour l'histoire des religions. Il reste à réexaminer les 98 papyrus du Nouveau Testament. Et je termine. Comme il fallait s'y attendre, cette perspective ne cause aucun plaisir aux courants intellectuels chrétiens qui ne veut voir que légende dans l'histoire du Christ. C'est une farce, fait dire à un chercheur du CNRS, le principal magazine de la gauche catholique française. Le même courant l'avait déjà dit d'une précédente découverte du professeur Tied sur des manuscrits de la mer Morte. Or, cette découverte allait dans le même sens que celle d'Oxford, quelques années plus tard, sur deux fragments de papyrus découverts dans la grotte numéro 7 de Qumran. Le professeur Tied et d'autres papyrologues venaient de déchiffrer deux versets de l'évangile selon saint Marc. Pourquoi était-ce une trouvaille? Parce que la présence d'évangiles sur ce site les date de l'an 50 au plus tard. C'était une première pierre dans le jardin des exégètes progressistes. Ils réagissent aussitôt par de dédaigneuses attaques contre le chercheur allemand, sans succès, car l'éminente Orsolina Montevecchi, je n'étais pas avec elle à l'école, je ne la connais pas, de Milan, considérée par tous les papyrologues du monde comme l'oracle scientifique, finit par trancher en faveur du professeur Tied. L'identification me semble certaine, déclare-t-elle. On a donc bien la preuve que l'évangile de Marc était écrit 20 ans plus tard, après la mort du Christ, et le professeur Tied est bien en train de révolutionner l'archéologie chrétienne. Est-ce que c'est pas merveilleux? Dieu se défait de toutes les attaques, quel que soit le vêtement qu'elle recouvre, Dieu se défait de cela. Il y a les attaques des scientifiques, les attaques des intellectuels qui, eux, eh bien, vont s'efforcer de dire que finalement la Bible n'est qu'une chronologie ou qu'un condensé de récits humains dans lequel l'homme cherche Dieu et dans lequel, eh bien, finalement, l'homme s'est mis à mettre ses résultats et chaque fois qu'il est dit Dieu a parlé, c'est pas Dieu a parlé, mais ce sont des hommes qui ont parlé. Frère, nous ne pouvons pas accepter cela. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Il est dit dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Les philosophes ont attaqué la parole de Dieu. La philosophie attaque la parole de Dieu. Je me souviens malheureusement du récit d'un fils de serviteur de Dieu qui, dans les cours de philosophie, a été tellement perturbé par ce qu'on essayait de lui inculquer, par la remise en question de la parole de Dieu, par ce qui avait été la base de ce qu'il croyait, que, pris dans un tourment intellectuel, ne sachant plus où il était, entrant dans une confusion totale, eh bien, ce garçon va entrer dans une dépression profonde et se suicider. On avait semé le doute, semé l'incrédulité dans son cœur. La parole de Dieu est très claire. Elle nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes étudiants qui sont là. J'aimerais m'adresser à ceux qui rentrent au lycée, à ceux qui vont avoir des cours de philosophie qui sont obligatoires en France. On se demande pourquoi. J'aimerais vous dire ce matin, lorsque vous y allez, serrez la parole de Dieu dans votre cœur et sachez que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ne la laissez jamais remettre en question. Les philosophes nous posent beaucoup de questions sur l'existentialisme, mais ne nous apportent aucune réponse. Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Ils nous proposent des interrogations, mais ne nous apportent pas de réponse. D'ailleurs, un philosophe connu dira la chose suivante. C'est Bertrand Roussel. Il dira à la fin de sa vie, la philosophie représente un fiasco pour moi. La philosophie représente un fiasco pour moi. Vous savez, le diable a déjà voulu séduire les hommes au travers de l'intelligence dès le départ. Il est dit dans le livre de la Genèse, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Déjà là, on a essayé d'induire l'homme, d'induire la femme dans l'erreur de la même manière. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça a pris des formes très intellectuelles. Ça semble très intéressant. D'ailleurs, très peu de gens peuvent vraiment philosopher. C'est tellement intellectuel que c'est réservé à une certaine élite. Je me demande si entre eux, ils sont capables de se comprendre. Mais pour les petites gens du peuple dont je fais partie, eh bien, finalement, c'est de l'élucubration intellectuelle, mais qui n'amène aucune certitude, qui sème le doute et qui détruit la foi. Les jeunes, rappelez-vous, vous irez au cours de philosophie, mais vous proclamez que Jésus est le roi. Vous ayez le courage de dire la parole de Dieu est la vérité, et Dieu a créé les cieux et la terre. Et je sais qu'un jour, eh bien, j'irai à sa rencontre. Amen. Frères et sœurs, vous savez, l'un des reproches que l'on nous fait, et que l'on fait même au travers des journaux, vous avez pu lire certains articles élogieux d'ailleurs, eh bien, l'on nous dit que finalement, on était des naïfs parce que l'on prenait la parole de Dieu au pied de la lettre. Ah, ça, c'est ce que le diable veut depuis longtemps, ne plus nous faire prendre la parole de Dieu au pied de la lettre. S'il peut te le faire prendre ailleurs qu'au pied de la lettre, il va le faire. Le diable ne va pas dire « ne prie pas », mais pourquoi prier comme c'est écrit? Il ne va pas te dire « ne prie pas », mais il va te dire « mais pourquoi ne pas prier tous les saints ?» Il ne va jamais te dire « ne prie pas, mais pourquoi ne pas prier un autre Dieu ?» Nous sommes traités de fondamentalistes, nous sommes traités d'intégristes, parce que nous avons le courage de croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et moi, ce matin, je voudrais réaffirmer haut et fort, elle est la parole du Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un iota qui doive être ôté de cette parole. Frères, sœurs, ne vous laissez pas déstabiliser. Je vois des émissions qui passent, qui sont là pour déstabiliser, remettre en question. Mais je bénis Dieu parce que lui aussi sait répondre scientifiquement. Je bénis Dieu parce que lui a encore des arguments. Amen. Alors, sans m'étendre, j'aimerais maintenant venir à une autre stratégie qui me semble, elle, beaucoup plus insidieuse et dangereuse. En fait, on ne peut pas dire dès le départ que c'est faux, mais ça pourrait très vite nous emmener sur une pente glissante qui nous éloigne alors des vérités bibliques. Lorsque on nous attaque avec des arguments massus, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, nous savons nous défendre et dire non, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et je vous dis, n'en doutez pas parce que le diable, lui, n'en doute pas non plus. Et c'est justement parce que le diable ne doute pas qu'elle est la parole de Dieu qu'il s'efforce et qu'il s'acharne pour la détruire. Alors si lui n'en doute pas, ne doutez pas non plus. Mais combattez-le par la parole. Maintenant, frères, sœurs, j'attire votre attention. Il est rusé, il est malin. Il nous est dit dans l'évangile selon saint Luc la chose suivante. Luc au chapitre 4, je lis. Au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Voilà que Satan cite la parole de Dieu. Et croyez-moi, si vous ne savez pas la citer, lui, il la connaît. Et il dira, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mes frères et sœurs, le diable sait utiliser la parole de Dieu pour vous éloigner au travers d'un texte sorti de son contexte, pour vous éloigner au travers d'un texte du fondement de cette parole. Il sait comment petit à petit nous faire dévier. Il est rusé. Il est malin. Il n'a pas qu'une stratégie. Il a différentes stratégies. Et c'est insidieusement et petit à petit que ça va s'infiltrer comme un poison. Je vais être un peu plus précis. Ce matin, j'aimerais le dire de tout cœur. Je n'entre en guerre contre personne. Mais il me semble ma responsabilité en tant que serviteur de Dieu de vous rappeler la place de la parole de Dieu. De vous rappeler également les dangers qu'il y a à se laisser tenter. À s'engager dans des voies qui ne seraient plus la parole de Dieu par excellence. Jésus dira dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de commandements, certaines personnes, et on me l'a déjà répondu, me disent, « Frère, vous êtes un religieux, vous êtes un légaliste. » Mais j'aimerais dire ce matin haut et fort, que commandement et légalisme sont deux mots tout à fait différents, ils ne sont pas synonymes. Ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, le terme légalisme ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le légalisme? Je vous donne là une définition. Et je le répète, bien que ce mot ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, il sert à décrire les efforts soutenus de l'homme pour gagner ou mériter la faveur de Dieu. Il signifie essentiellement le fait d'essayer d'atteindre la justification et la sanctification par l'observation de la loi. Aujourd'hui, le mot est employé dans un sens plus large pour parler de tout ce qui est considéré comme une règle rigide et moralisatrice. En fait, le mot légalisme sert maintenant de massue pour empêcher presque toute contrainte au comportement chrétien. Dès que vous dites, mon frère, la parole de Dieu dit, frère, tu es un légaliste. Frère, tu es un religieux. Alors c'est vrai que je fais la guerre aux légalistes. Je fais la guerre aux légalistes de tout mon cœur. Mais quand il s'agit de l'observation de la parole de Dieu et des commandements de Dieu, il ne s'agit plus de légalisme, il s'agit d'obéir de cœur à Jésus. Et lorsqu'on veut nous dissuader de faire ce que la parole de Dieu dit, simplement parce que l'on nous traite de religieux et que l'on nous culpabilise, nous n'avons pas à accepter ces choses-là. Nous avons à nous remettre en face de la parole de Dieu. Je vais prendre des exemples concrets, pratiques, parce que j'en ai assez de voir des sœurs être culpabilisées. La parole de Dieu nous parle du voile. Et dans ce lieu et dans cette église, nous avons toujours laissé une totale liberté à chacun. Et tant que je serai là, je laisserai une totale liberté. Maintenant, des sœurs, parce qu'elles ont lu la parole de Dieu et ont la conviction profonde que c'est juste, mettent le voile et je les encourage et je les bénis. D'autres ont la liberté de ne pas le mettre. Je les bénis de la même manière. Ce qui aujourd'hui me fait mal, c'est de voir que lorsqu'une femme met un voile, dans certains milieux, on lui dit « Ma sœur, vous êtes religieuse, ma sœur, vous êtes encore sous la loi, vous n'êtes pas libre. » Mes sœurs, n'acceptez pas cela. Vous êtes libres en Jésus-Christ. Vous avez choisi dans la liberté de le mettre. Vous l'avez choisi parce que vous êtes convaincus. Alors continuez à le mettre. Que vous n'en fassiez pas une règle pour les autres, ça, c'est votre responsabilité. Le jour où vous penserez qu'à cause du voile, vous êtes plus sainte que les autres, vous êtes tombé dans le légalisme. Mais si par conviction et obéissance à la parole de Dieu simple, vous le faites, alors faites-le et continuez à le faire. Ce n'est pas parce que vous ne le mettez pas que vous êtes plus libre. N'acceptez plus de vous laisser culpabiliser par des personnes qui souvent, eh bien, en critiquant sévèrement des modèles de conduite et en les traitant de légalistes, démontrent peut-être qu'ils sont en train de devenir beaucoup plus permissifs. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, « Sœur, vous voyez, si vous vous habillez juste un peu plus, parce que cette robe qui s'arrête tout de suite et qui commence jamais, ça perturbe un peu les frères, vous voyez. Je ne sais pas si ça les fait louer, mais enfin... Ah, frère, mais tu es religieux. Moi, je suis libre en Jésus. Ouais. Moi aussi. Mais la parole de Dieu me dit simplement d'être décent, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être belle. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être chouette. Moi, j'aime quand ma femme est belle. Croyez pas? Moi, j'aime quand je rentre et qu'elle... Souvent, quand je rentre de voyage, elle se fait belle. Déjà, moi, je suis content. Et quand je rentre, j'ai pas une grand-mère qui m'attend triste et... Non, elle est libre. Et là, je suis content, je me promène avec elle dans la rue. Ah. Mais quand elle n'est pas bien habillée, je l'aime aussi. Voilà. Même chose. Mais si elle commençait à venir demain avec des jupes qui donnent des boutons d'urticaire à mes frères responsables, je pense que je l'arrête. C'est ma responsabilité. L'homme est le chef de la femme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des longueurs et des... Il n'y a rien du tout. Il y a ta conscience. Il y a ton désir d'obéir à la parole de Dieu. Mais ne fais pas de ta liberté un moyen de devenir une pierre d'achoppement pour les autres. La parole. Revenons à la parole. Elle nous dit ce que nous devons faire. Et nous ne serons que plus heureux. Je ne me suis jamais senti ni esclave, ni légaliste, ni religieux en observant la parole de Dieu. Mais j'ai toujours découvert qu'en la respectant, la bénédiction de Dieu venait sur ma vie. Amen. Puis-je continuer? L'apôtre Paul dira, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et parfois, cette espèce de liberté qu'on me prêche est devenue une forme d'asservissement. Il faut systématiquement qu'on fasse autrement que les autres, parce qu'on est libre, et au nom de la liberté, on risque de blesser un frère, de blesser une sœur. Oui, je suis libre, mais que je ne fasse pas de cette liberté, et vient une pierre d'achoppement pour les autres. Je continue. Est-ce que vous avez envie de continuer? Oh, peut-être que ce matin, je soulève certaines questions chez certains. Peut-être que certains sont surpris, mais ma responsabilité n'est pas de savoir ce qui vous intéresse dans ce que je prêche, mais de prêcher la parole de Dieu. Un autre piège, c'est, voyez-vous, ce qui va entraîner des divisions. C'est l'enseignement d'un sujet présenté comme essentiel alors qu'ils ne sont que secondaires, mais ils vont provoquer des divisions. Les divisions peuvent naître de la rivalité entre deux hommes. Ok, ça peut créer une division, on peut se séparer. Mais ce qui divise souvent les églises, ce sont les doctrines. Et le fait de mettre l'accent sur une doctrine en le présentant comme une doctrine essentielle alors qu'elle est secondaire peut emmener une division dans une église, emmener des partis pris. Écoutez ce que Paul dit à Tite. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Celui qui cause des divisions, qui s'entête dans une doctrine, sans tenir compte de ce qu'elle va provoquer, met en danger l'église de Jésus-Christ et remet en question la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais peut-être pas prendre un exemple actuel pour ne pas créer de polémique. Mais imaginons que je commence à insister sur une doctrine. Tiens, je vais vous en inventer une. Elle sera biblique. Mais je vais vous la présenter comme essentielle. Et à partir de maintenant, vous saurez, si je faisais ça, que la doctrine essentielle de la mission du plein évangile, c'est celle-ci. Dieu dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous et soyez féconds. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, au moins chaque année, il nous faut un bébé. Ça, c'est une extrapolation. Je cite la parole de Dieu, j'en fais une doctrine. Je commence à culpabiliser tous ceux qui s'arrangent pour ne pas chaque fois. Moi, j'ai mis des années à trouver le frein à main. Je culpabilise ceux qui pourraient envisager la vie de couple avec l'épanouissement également sexuel sans engendrer forcément des enfants. Frères, sœurs, la nature a été ainsi créée que l'homme peut rencontrer sa femme sans forcément procréer. Si Dieu avait voulu que vous procréiez constamment, vous seriez fécondes, mes sœurs, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. On ne se poserait pas de questions, c'est comme ça à l'Avanti. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais je sais qu'en prenant une telle position et en commençant à insister et en commençant à en faire une doctrine essentielle, je créerai au milieu de nous une division. Il y aurait ceux qui diraient oui, et souvent c'est les célibataires, et il y aurait ceux qui disent, frère, c'est pas équilibré, c'est pas vrai, la Bible ne dit pas cela, tu es en train de mettre là en exergue et tu es en train de mettre en évidence quelque chose qui n'est pas au centre. Et aujourd'hui, dans différents lieux, on entend des choses être mises au centre comme si elles étaient de nouvelles révélations, comme si elles étaient de nouveaux signes, comme si maintenant Dieu venait de faire quelque chose de nouveau, on le met en évidence et on entraîne tout le monde à s'attacher à ces choses-là en oubliant l'essentiel, la parole de Dieu. Écoutez bien ce que Paul dit, et je vais le citer. Il dira dans 1 Corinthiens 2, 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 1, 23, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Éphésiens 4, 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » 1 Timothée 4, 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Il y a donc une mauvaise doctrine s'il y a une bonne doctrine. 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps, et j'ai peur que nous connaissions ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Frères, sœurs, nous sommes aujourd'hui, eh bien, confrontés à cela. Je rencontre énormément de gens qui cherchent des choses agréables à entendre, qui cherchent des émotions et des sentiments. Oui, Dieu est un Dieu qui a des émotions. Oui, Dieu veut te toucher dans tes émotions. Oui, Dieu veut te toucher dans tes sentiments. Mais tu ne peux pas construire ta vie spirituelle sur des émotions. Tu ne peux pas. Le jour où la tempête viendra, tu seras emporté. Tu ne peux pas. La parole de Dieu est une ancre. Frère, oui, mais moi je ne sens pas. Est-ce qu'il t'a dit à quelque part qu'il fallait sentir? Frère, moi je ne sens rien. La Bible dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Non seulement elle ne te propose même pas de sentir, elle te propose de rien voir. Dans sa grâce, Dieu nous fait voir. Amen. Dans sa grâce, Dieu nous fait sentir. Mais nous ne cherchons pas à devenir des chrétiens émotionnels qui ne marchent que sur les sentiments. Nous cherchons également une foule de docteurs qui vont nous dire les choses qui vont arriver. Vous savez, parfois dans les milieux chrétiens, on a l'impression qu'il y a une nouvelle forme une nouvelle forme d'astrologie chrétienne. On court les nouveaux 10 heures de bonne aventure. Et alors on entend, il y a un prophète ici, il y a un prophète là-bas, il y a un prophète actuellement en Europe, vous avez des prophètes partout. On court et on cherche à entendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Et je vois des gens, pas seulement en France, mais en Suisse et ailleurs, qui courent. Je partage avec des serviteurs de Dieu, et ça devient un souci pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils me disent, nous avons des gens de plus en plus fragiles, parce qu'en fait, ils ne sont plus attachés à aucune église. Ils courent d'un séminaire à l'autre séminaire pour recevoir des paroles prophétiques. Et à la fin, à la première épreuve, c'est les premiers qu'on voit emporter. Mes frères, mes sœurs, c'est à la parole de Dieu que tu dois t'accrocher. C'est là-dessus que tu dois construire. C'est là-dessus que tu dois bâtir. C'est là-dessus que tu pourras enraciner tes racines et devenir solide et ferme. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas emporter n'importe comment. Alors je terminerai. Il y a encore une autre forme. J'ai souvent été interpellé sous cet angle-là. On m'a dit, ah frère, mais les commandements, tout cela, oui. Oui, mais nous, on n'a plus besoin de ça. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Vous savez que je suis le premier à signer. Moi, je veux être conduit par le Saint-Esprit. Mais vous savez que j'ai découvert quelque chose. Le Saint-Esprit, il ne dit pas une chose à un endroit et le contraire ailleurs. Il sait être en phase avec lui-même. Le Saint-Esprit me ramène à la parole de Dieu. Au nom du Saint-Esprit, aujourd'hui, je vous assure, le Saint-Esprit, il a le dos large. Parce qu'alors, au nom du Saint-Esprit, on fait tout et n'importe quoi. Vive le Saint-Esprit. Ça ressemble à la nouvelle révolution française. Le Saint-Esprit vous ramènera à la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Frère, sœur, j'arrive un jour à Paris, une femme m'interpelle. Elle me dit, vous m'agacez. Alors ça, je sais que j'agace pas mal le monde. Hein, chérie? Et elle me dit, vous n'arrêtez pas de citer la Bible, la Bible, la Bible. Mais frères, est-ce que vous réalisez? Nous avons changé maintenant. Nous n'avons plus besoin de lire la Bible. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'onction et nous enseigne toutes choses. Ne connaissez-vous pas ce texte? Je dis oui, je le connais. Et je vais vous le lire. Il est dit dans 1 Jean 2, 27, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ce texte, si je le prends comme ça hors contexte, me pose un problème. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'enseignants? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de pasteurs, plus de docteurs? C'est à peu près ça, si je m'en tiens à ce qu'ils me disent. Ça voudrait dire que Jésus s'est trompé. Après être ressuscité, lui va donner des ministères à l'église dans Éphésiens 4, 11. Il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frères, ne prenez pas un texte pour essayer de justifier une quelconque liberté ou semi-liberté. Mais rappelons-nous que Dieu a donné des enseignants. Pour bien comprendre ce que Jean voulait dire là, il faut se remettre dans le contexte. Que se passait-il? À l'époque, il y avait dans l'église beaucoup de faux docteurs qui s'étaient infiltrés. Il y avait des fausses doctrines. Et ces docteurs devaient à peu près dire la chose suivante. Voyez-vous, le discours devait être le suivant. Ce que vous avez, c'est bon. C'est bien, là. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. Mais nous avons d'autres vérités. Nous pouvons vous amener plus loin. Plus loin que ces simples enseignements. Pour vous faire connaître de nouveaux mystères plus profonds. C'est attirant, hein? Et l'apôtre Jean réagit, il dit non. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez le Saint-Esprit. Et l'onction de son esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous avez sa parole. L'esprit va vous conduire dans sa parole. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de courir à droite, à gauche. Vous avez sa parole. Et son esprit va vous inspirer dans sa parole. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas emporter. J'aimerais vous dire que la foi a été donnée une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à retrancher. Jude nous dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Regardez ce que faisaient les gens de Béret. Et j'aimerais que nous soyons comme ça. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Est-ce que nous le faisons? C'est ta responsabilité, mon frère. N'avale pas tout comme argent comptant. Connais ta parole. Éprouve tout esprit. Je ne citerai aucun nom, mais je vais vous donner quand même. Ça me tient à cœur parce que ça m'a tellement bouleversé. J'arrive dans une église, et je cite vraiment, je ne vous citerai ni d'endroit ni de nom. J'arrive dans une église, j'en ai parlé à l'une ou l'autre personne, et j'aimerais leur demander d'être discrète là-dessus. J'arrive dans une église, et le pasteur me dit, on avait le passage d'une personne, et il nous a dit, nous sommes maintenant dans la liberté de l'esprit. Il faut casser l'esprit religieux. Et pour casser l'esprit religieux, il a fait faire à l'église du saut de mouton. Les gens faisaient du saut de mouton. Dans une cour d'école. Ça ne me dérange pas le saut de mouton. Si je vois le frère Georges faire du saut de mouton sur le frère Paul, ça commence à m'inquiéter. Et on vient avec un argument massu, c'est trop légaliste, c'est trop religieux, nous sommes dans la liberté de l'esprit, il faut briser cela. Frère, ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est même pas le Saint-Esprit. On nous dit, le Saint-Esprit vient pour nous humilier. Jamais je ne trouve ça dans la parole de Dieu. Il m'a dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Satan nous a suffisamment humiliés. Satan m'a suffisamment humilié pour que je ne veux plus être humilié comme ça. Puisse le Saint-Esprit amener en moi l'humilité, ça oui. Mais il ne va pas m'humilier en me ridiculisant. M'humiliant en me faisant faire du saut de mouton. Demain, on va peut-être faire du tir à l'arc ici. Pourquoi pas? Pire encore, de la pétanque. On est libre. Frères, sœurs, nous avons comme devoir de revenir à la parole de Dieu et surtout d'éprouver toute chose. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de doctrine. Et je vais vous dire qui se laisse emporter. Ce sont souvent les gens qui n'ont pas des racines profondes. Avez-vous vu la tempête avant Noël? Avez-vous vu la tempête? Avez-vous vu ce que la tempête a majoritairement renversé? Ce sont des épineux qui ont des racines superficielles mais pas profondes. C'est des sapins en grande majorité. Nos Vosges se sont fait souffler. Les épineux qui se sont couchés les uns après les autres sur des hectares, des centaines de milliers et des millions de mètres cubes. Parce qu'ils n'avaient pas les racines profondes. Alors il y en a peut-être quelques autres. Mon frère, ma soeur, la semence tombe dans une terre peut-être peu profonde. Si tu n'as bâti que sur les sentiments, si tu n'as bâti que sur l'expérience, certains sont venus me dire, oui mais moi l'expérience me dit, mais moi la parole de Dieu me dit de ne pas bâtir sur l'expérience, la parole de Dieu me dit de bâtir sur la parole. Et le résultat de la parole, c'est que tu vas faire des expériences. Et les expériences ne vont que confirmer la parole. Amen. Oui, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Dieu peut faire apparaître la rosée ici. Dieu peut demain déverser de la manne ici. Est-ce que vous le croyez? Moi, Dieu peut demain faire... J'ai eu quelques personnes qui m'ont apporté des récits de ce qu'ils ont vécu ici dans cette salle. Je ne dirai pas de quoi il s'agit. Ils ont vécu des choses vraiment particulières. Vraiment surnaturelles. Mais si je commence à vous prêcher ces choses-là, je vais vous éloigner de la parole de Dieu. Si je commence à mettre l'accent sur ce que ces gens-là ont vécu et sur le signe qu'ils ont reçu... Je vais vous éloigner de l'écriture. Paul dira, je veux savoir Christ et Christ crucifié au milieu de vous. Si demain, pendant que nous louons le Seigneur, la manne couvre toute cette salle, eh bien nous prendrons la manne. Amen. Mais nous ne commencerons pas à prêcher la manne. Nous continuerons à prêcher Jésus-Christ. J'arrive sur des sites internet d'église. Lorsque je regarde l'annonce d'église, je suis surpris et attristé. Parce que la première des choses, chez nous tel signe, chez nous tel signe, chez nous tel signe, chez nous tel signe. S'il vous plaît, Jésus dans tout ça, il est où? Est-ce que vous pourriez m'indiquer une église où il y a Jésus? C'est là que je voudrais aller. C'est là que je voudrais aller. Alors, je ne dis pas que l'un empêche l'autre, loin de là. Mais le centre, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. Et je voudrais terminer avec vous. Pourrions-nous fermer nos yeux? Pendant que vous avez vos yeux fermés, je vais simplement énumérer quelque chose. Comment écouter la parole de Dieu, l'écouter avec son cœur. Dans Luc 8, 18, Jésus dira, prenez donc garde à la manière de vous écouter. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, frères, sœurs. Il est possible ce matin d'écouter la parole de Dieu avec une attitude d'indifférence. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut, moi, je file ma route. C'est votre droit. Vous pouvez écouter avec une attitude de critique. Par cela, eh bien, nous allons mettre la pensée humaine au-dessus des Écritures. Nous allons faire le procès à un moment donné de la Bible au lieu de nous laisser juger. Vous pouvez écouter avec une attitude de rébellion. Lorsque nous sommes confrontés aux passages qui parlent des exigences de la vie, ou peut-être qui ont parlé de certaines choses sur lesquelles eh bien, vous êtes sensibles, vous pouvez devenir furieux et refuser d'obéir. C'est votre liberté, ce serait dommage. Nous pouvons être des auditeurs oublieux, Jacques le dit. Soyons pas comme celui qui se regarde dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il était. Nous pouvons également, et c'est malheureusement le cas de la plupart, quand je dis de la plupart de ceux qui n'ont pas des racines profondes ou qui se laissent facilement emporter, être devenus des auditeurs insensibles. Vous avez tellement entendu la parole de Dieu sans vous laisser interpeller, que vous l'écoutez maintenant d'une manière mécanique, convaincu que toutes ces choses, de toute façon, vous les connaissez depuis longtemps, et à force d'écouter la parole de Dieu sans lui obéir, votre jugement s'est endurci, vous perdez votre capacité d'écoute. Frères, sœurs, le sage ne fait pas que d'écouter, il met en pratique. Et j'aimerais vous dire maintenant, Jésus nous prévient, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si tu es en train de suivre des prodiges et des miracles, fais attention. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la suivions. Il n'a jamais dit suivez les signes. Il a dit à ces signes, vous les reconnaîtrez, c'est différent. Frères, sœurs, si tu t'attaches qu'aux signes, qu'à l'aspect extérieur, qu'à cette espèce de soi-disante liberté, et je le répète, je me sens parfaitement libre, viendra un temps où il se fera de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et heureusement que Dieu abrégera le temps. Le diable saura faire des prodiges. Le diable saura faire des signes. Vous savez, le diable a toujours su tout imiter. Moïse a fait un serpent, les magiciens d'Égypte ont fait un serpent. Ils ont su imiter. Ta garantie, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, qu'elle soit l'ancre de ton âme, afin que lorsque la tempête vienne, tu restes debout. Si ta foi ne repose que sur des signes, très vite tu seras séduit. Mais si elle repose ce matin, et je te le dis de tout mon cœur, sur la parole de Dieu, tu tiendras ferme. Sa parole va t'éclairer, elle est une lampe à mes pieds, dira le psalmiste. Elle demeure éternellement, le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons passera également, mais mes paroles ne passeront point. Elle enseigne la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Et ce matin, je vais te dire, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, dira le psalmiste, ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Si tu as la crainte de l'Éternel, et si tu veux avoir la sagesse, alors mets en pratique sa parole et veille sur cela, sois prudent. Et pour terminer, celui qui la met en pratique restera debout. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Père, je te prie ce matin qu'il n'y ait aucune maison ruinée au milieu de nous.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.